Vous allez bien ?
Ça va bien et vous ?
Ça va, merci. Désolé pour le retard.
Ça a été pour retrouver ?
Je me suis demandé si c'était pas là.
Ouais, c'est la,
c'est pas chez
la
vous.
Maison des chasseurs.
Ah ouais ? On est juste à côté.
Ouais, ouais, ils ont un pavillon.
Donc vous les côtoyez beaucoup ?
Un peu trop régulièrement, du coup, ouais. À chaque fois qu'ils font des actions de chasse, ils sont pas toujours là, mais de temps en temps, ils sont là. Donc ils se réunissent là le matin et puis le midi, quoi.
C'est ces chasseurs-là qui ont
oui, oui.
Ça. D'accord.
C'est le président de la société de chasse, justement, qui se réunit dans ce pavillon.
On peut faire un petit tour des lieux.
Ouais.
Je vous en prie.
Rentrer dans le premier temps, je sais que vous avez des trucs à poser.
Merci. Merci de m'accueillir.
Avec plaisir.
Elle est considérée comme un loisir ou un sport par ses pratiquants. Et elle est à la fois sollicitée pour une mission de régulation de certaines espèces animales par les pouvoirs publics. La chasse revendique sa légitimité sur plusieurs fronts. De l'autre côté, des animaux sont tués en quantité, mais aussi des lieux et des vies traversées par les balles tirées de ces fusils. Dans ce documentaire, nous allons découvrir certaines de ces histoires et questionner ce loisir qui se joue à balles réelles et dont l'impact ne s'arrête pas à la frontière d'une battue.
Balles réelles. Un documentaire photographique et sonore de Rudy Burban. Avec la voix d'Élise Jaunet. Épisode 1.
J'ai rencontré Élodie et Tanguy dans leur maison entourée de prairies, à Saint-Georges-sur-Loire, dans la campagne angevine. Une maison en location, ancrée dans un territoire rural, nichée au bout d'un chemin, avec pour seul voisin un pavillon de chasse situé à moins de 100 mètres. Ils m'ont raconté l'histoire de cette balle qui a traversé leur maison 4 ans plus tôt et dont les stigmates étaient toujours présents. C'était un vendredi de février 2022.
Vous ne travaillez pas aujourd'hui ?
Non, enfin moi je suis en reconversion professionnelle. Hein.
D'accord.
J'ai quitté mon métier depuis cet été et Elodie ne travaille pas le vendredi après-midi.
Je m'appelle Élodie, je vis avec Tanguy, à Saint-Georges-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire, à 15 km d'Angers.
On est originaire de régions différentes. Moi de Bretagne, et Élodie, elle habitait en Auvergne. Et bon, on a été mutés, hein, c'est pour le travail. Donc voilà, et puis on a pris cette maison, du coup.
Vous êtes des ruraux au départ, ou pas forcément ?
Pas du tout, moi je suis une citadine. J'ai toujours grandi en ville. Et pour moi, arriver dans cette maison, c'était un peu mon rêve. De vivre sans voisin, j'ai toujours vécu avec beaucoup de voisins. Et voilà, d'être entourée par cette nature abondante et autant généreuse, c'était une première pour moi. Et voilà, c'était un cadre idyllique pour moi.
Moi, je connaissais un peu plus moi, l'univers rural. Quand j'étais tout jeune, j'habitais normalement une toute petite commune hein, de moins de 2000 habitants, donc avec pareil, hein, beaucoup de champs, beaucoup de forêts dans lesquelles je passais ma jeunesse. Et quand je suis venu m'installer sur Angers, j'avais déjà pris une maison du coup en location en pleine campagne comme ça aussi, où j'avais juste un voisin. Par contre, il n'y avait pas autant les chasseurs de la maison où j'étais avant.
On vit dans une maison qui est située sur un grand domaine de plusieurs hectares qui appartiennent au même propriétaire, qui est à 1 km d'ici à vol d'oiseau. Et on partage donc ce grand domaine avec le point de chute des chasseurs dans leur pavillon de chasse qui est à 50 mètres de notre maison. Ils sont eux aussi locataires de ce domaine, tout comme nous.
Ouais, vous êtes en cohabitation plus ou moins avec
ça.
Eux louent en fait le droit de chasse en fait pour voilà. Accéder justement à ces terres-là. Mais ils ne sont pas propriétaires non plus.
On a la chance de vraiment habiter dans une maison isolée en pleine campagne. Il faut un tout petit chemin en pierre pour y accéder. On est la seule maison, grande maison de 100 mètres carrés avec un bâtiment, un hangar également, des petits appentis, on a un grand jardin et en même temps tout autour c'est que des prairies, une jolie forêt un petit peu plus loin, un grand plan d'eau également séparé avec des roseaux, enfin vraiment un cadre idyllique dans lequel on se sentait à l'aise, on était vraiment bien à ces moments-là. Pas de voisins, hormis bah justement ces chasseurs qui viennent de temps en temps en semaine et tous les week-ends ou quasiment tous les week-ends.
C'était voilà, les seuls humains qu'on voyait de temps en temps. Sinon, le reste du temps, c'était tous ces animaux sauvages qu'on a la chance de pouvoir observer dans toutes ces prairies qui sont en face de chez nous. Quoi. Des sangliers assez rarement, mais bah, ce jour-là, n'empêche que j'avais pu en voir deux. On a régulièrement des chevreuils, des lièvres, beaucoup d'oiseaux, parce que comme il y a un plan d'eau qui est juste à côté, il y a de nombreux oiseaux, hein, différents hérons, plein de buses qui volent. Enfin voilà, on se sentait vraiment bien dans cette nature. On vivait avec cette activité de chasse, même si on n'était pas favorable, ça c'est sûr. Mais on ne pensait pas qu'on était en danger. Et en fait, on se rend compte que même en pleine campagne comme ça, où on est isolé, bah, quand il y a ce type, en tout cas, de voisins, bah, on n'est pas en sécurité, malheureusement. C'est ici. Donc, là, si on regarde sur la prairie qui est vraiment juste en face.
Juste en face.
Il y a un plan d'eau, il y a des roseaux, et donc le mirador couloir, qui était là. Ça, et qui était orienté en direction de notre maison à l'époque. Ouais. Et ça a été mesuré, il y a eu une expertise balistique qui a été faite. Donc ils ont mesuré, vraiment, ça a été à 400 mètres. Donc depuis, il a été enlevé, parce que forcément, ils se sont rendus compte que c'était dangereux d'avoir un mirador qui est orienté en direction de la maison. Mais à l'époque, il était là. Il y a eu plein d'actions de chasse avant
depuis
que cet accident entre guillemets arrive.
Ouais,
il y a eu plein d'actions de chasse qui ont eu lieu sur ce mirador orienté en direction de notre maison.
Vous aviez déjà eu des chasseurs dessus ou vous habitez là depuis longtemps vous?
Bah, ça faisait un an et demi qu'on était dans la maison.
Un petit peu plus d'un an qu'on était là.
Ouais. Alors on avait bien vu ce mirador, mais bêtement, je faisais confiance, même si j'aimais pas particulièrement la chasse, hein. Mais j'avais confiance. Je me disais, c'est tellement dangereux les actes de chasse que si il y a un mirador ici, c'est que forcément il doit y avoir des règles extrêmement strictes en matière de chasse. Et voilà, j'avais confiance, même pour vous dire, je pouvais être dans mon jardin. Alors j'étais pas sereine, mais j'allais quand même dans mon jardin quand il y avait des actions de chasse, parce qu'encore une fois, j'avais entièrement confiance.
On réalisait pas le danger. Voilà. Je pense qu'on s'était aussi habitué parce que comme ils font quasiment tous les week-ends, oui, différents types de chasse, il y a aussi la chasse aux perdrix qui font. Donc là, c'est carrément une ligne de chasseurs qui est face à la maison et qui avance en direction de la maison pour tirer sur les perdrix. Et c'est quelque chose qu'ils font depuis des années. On avait eu l'occasion de discuter avec eux. Ils font ça depuis des années et des années. Donc pour nous, c'était quelque chose d'habituel, quelque chose avec lequel il fallait vivre.
Oui.
En fait, bah, pas du tout. Ils nous mettaient en danger tous les jours, ces gens-là.
On se disait que c'était le prix à payer pour vivre avec un cadre comme ça. En plein milieu de la nature, avec aucun voisin. Bah, ma foi, nos voisins sont des chasseurs, mais ça va bien se passer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne le vit plus du tout de la même façon.
Le 20 janvier 2018... une balle de chasse traverse une partie de l'habitation. Le tir provient de l'arme de l'un des chasseurs, dont le poste se trouve à une distance de 392 mètres, au bout du champ, situé dans l'alignement de la maison. Le tireur présumé semble surpris et indique avoir respecté l'inclinaison par rapport au poste de tir. Il parle d'un ricochet sur l'eau.
Fin janvier 2018, du coup, si je ne me trompe pas. Bah, comme tous les matins, moi, j'aime bien aller à la fenêtre de la cuisine pour voir le champ qui est en face de notre maison, parce qu'il y a souvent des animaux sauvages qui sont présents. Et puis ce jour-là, je vois deux sangliers justement dans la prairie en face. Donc j'ai vite été chercher mes jumelles pour les observer. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une action de chasse qui était en cours à ce moment-là. Je me suis dit que forcément j'allais malheureusement assister à un drame, qu'ils allaient se faire tirer dessus, hein, les sangliers. Donc je me suis retourné, hein, parce que j'étais devant la fenêtre de la cuisine, je me suis retourné, j'ai été poser les jumelles, et à peine une seconde, j'ai entendu un bruit sourd, un grand claquement, un bruit que j'ai pas l'habitude d'entendre dans mon dos. Donc quelques secondes avant de réaliser que c'est en fait la personne sur le mirador, donc de cette direction, elle tire en direction de notre maison. Ça traverse d'abord le carreau de la cuisine, en face duquel je me trouvais moi quelques secondes avant. Ensuite, ça va perforer un montant de porte de je crois qu'il fait 7 cm d'épaisseur. Donc c'est quand même un montant de porte assez épais.
On peut aller voir.
Ouais, on peut aller voir ça.
Elle tape où sur la vitre là? Enfin, elle traverse où là-bas?
Elle a traversé vraiment plutôt en partie basse de la vitre, quasiment milieu un petit peu. Ouais. Et donc on a le plan de travail qui est juste de l'autre côté. Voilà, moi j'étais de ce côté-là.
L'arme utilisée est une carabine à canon superposé, de type carabine de chasse express. Il s'agit d'une carabine de chasse de très bonne qualité de fabrication.
Cette arme est dans un bon état d'entretien général. Le projectile utilisé est d'un calibre créé en 1905 pour les carabines de chasse double express. Il est particulièrement approprié pour la chasse au gros gibier, de type sanglier et cerf. Les conditions à réunir pour permettre un tir sont les suivantes. Le déverrouillage des canons et leur basculement vers le bas. L'introduction manuelle d'une cartouche dans chacune des deux chambres. Le verrouillage des canons. Une pression sur la queue de détente.
La cuisine, elle fait quoi? Elle fait 4 mètres, là, du coup. Il y a un montant de porte de la cuisine qui fait 7 cm d'épaisseur, qui a été traversé très facilement. Il y a une très légère déviation qui a fait repartir la balle un tout petit peu vers la droite. Elle a traversé le carreau d'une porte de salon, de l'autre extrémité du salon. Là, le carreau est cassé. Elle a traversé également une autre porte en bois d'une des chambres. C'est une porte en bois qui fait 2-3 cm d'épaisseur. Et pour finir sa trajectoire, du coup, sur le mur, là, il y a vraiment un mur très épais, où du coup il y a l'impact de la balle. Et c'est là, du coup, par terre, où on a trouvé l'ogive. Et
donc, Elodie. J'ai sorti de la chambre, j'étais ici. Voilà, j'allais sortir. Et du coup, voilà, le PSIG, donc le groupe d'intervention de la gendarmerie qui était présent ce jour-là, nous a dit, voyez, vous l'auriez pris en pleine tête en sortant de chambre.
L'orifice d'entrée dans la maison est visible sur la vitre gauche de la fenêtre de la cuisine. Il est situé à 163 cm du sol. Le projectile a ensuite percuté le montant droit de la porte d'accès entre la cuisine et le salon. L'orifice mesure environ 1 cm de diamètre et est situé à 140 cm du sol. Le projectile s'est glissé entre le montant en bois et l'encadrement du mur. La solidité du mur a provoqué la trace de rayure sur la longueur du cylindre et légèrement détourné le projectile vers la droite. La balle a ensuite traversé un carreau de verre de la porte d'accès au couloir des chambres. L'orifice mesure environ 5 cm et est situé à 143 cm du sol. La balle a ensuite traversé la porte en bois d'une chambre située sur la droite et qui était ouverte. Le projectile a été retrouvé sur le sol au bout de ce couloir. L'impact de fin de course est visible sur le mur, à une hauteur de 160 cm du sol.
Voilà. Et donc là, elle finit sa course ici, là.
Ouais.
C'est ça.
On ne va peut-être pas toucher, si.
Non, c'est bon, hein. Ouais.
Elle tombe.
Ouais.
Elle a rebondi.
Ouais. Je ne sais pas trop si elle a rebondi. Toi qui rampais, est-ce que tu l'as...
Donc moi, vraiment, ouais. Je sors de là et je comprenais pas, parce qu'il y avait des débris de vitres partout dans le couloir. Et je remontais comme ça à quatre pattes, parce qu'il m'avait dit « ne te lève pas du lit ». Donc j'étais en train de comprendre, mais je comprenais rien, quoi. Et là, donc là, des bouts de verre partout, on avait deux chiens, donc les chiens qui étaient complètement excités. Dans le salon, pareil, je commence à remonter vraiment à quatre pattes, et j'arrive dans la cuisine, et là, je vois ce trou béant dans la fenêtre, donnant sur l'extérieur, et je vois Tanguy levant les bras dans le champ, et je vois sur ce mirador un chasseur qui était présent, et je commence à comprendre.
Quand je suis arrivé, je commençais à discuter avec lui, il me prenait pour un fou, clairement, il reconnaissait pas qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et il y a un de ses collègues chasseurs qui était arrivé à ce moment-là, un peu dans mon dos, il avait un bâton, en tout cas dans la main. Donc, je sais pas, c'est parce qu'il a eu peur de me voir arriver comme ça en lui criant dessus. Mais voilà, donc, clairement, ils étaient à deux. Donc, pour ça, moi j'ai fait demi-tour en disant que j'allais appeler la police. Mais ça sert à rien d'appeler la police. Hein. Enfin voilà, clairement, il voulait rien entendre.
Et je vois Tanguy qui était déjà en train de faire demi-tour parce que le chasseur refusait de descendre de son mirador. Et là, moi, je prends des bottes, je file dehors et je pars rejoindre le chasseur qui était sur son mirador, qui me tournait le dos. Et je lui dis, mais qui a fait ça? Et il se retourne, il dit, c'est moi. Mais comme dans un film, c'était incroyable. Il me dit, c'est moi. Et je lui dis, vous n'avez pas la décence de descendre de votre mirador pour constater ce qui s'est passé dans la maison? Et là, il a pris son arme, puis il est descendu, et il l'avait déposée, tu te rappelles, dans les buissons, pour venir dans la maison. Et là, il était presque, tu te rappelles, impressionné par son arme. Il disait, ouais, quand même.
C'est capable de ça quand même.
Ouais, je te rappelle.
Plutôt que de se dire, oh là là, mes pauvres, mais qu'est-ce que vous avez vécu oh, c'est moi qui ai fait ça, je suis désolé. C'était plutôt, waouh, impressionnant ce que c'est capable de faire mon arme là que je tiens entre les mains. Ouais, quand vous voyez ça, ça a tendance à bouillir un petit peu quand même.
Quelqu'un comme toi, ouais. Qui est autant calme et non violent par nature, parce que son attitude ce jour-là poussait à des actes de violence, vraiment. Il était dans un snobisme incroyable, dans réfuter toute culpabilité, il s'est rien passé, même vous, vous en faites beaucoup trop.
Et donc là, en fait, il était dans la maison, il regarde, et c'est à ce moment-là que vous appelez les gendarmes.
C'est ça.
Il vous a pas vu les appeler ou...
Si, c'est là où j'ai dit, de toute façon, j'appelle un gendarme, parce qu'il est en train de dire à Tanguy, c'est bon, moi je paye la réparation, on n'en parle plus, allez, je reprends mon acte de chasse. Il avait ce jour-là 40 personnes qui étaient venues de un peu partout du Maine-et-Loire pour faire cette chasse, donc c'était une grosse responsabilité pour lui, donc il fallait reprendre un peu tout ça. Et moi j'ai dit, moi j'appelle la gendarmerie. Non, n'appelez pas la gendarmerie.
Puis le groupe d'intervention de la gendarmerie sont arrivés très très vite en plus. Donc,
5 minutes, ouais. Ils étaient là et ils ont tout de suite constaté ce qui s'était passé. Et on s'est senti victime grâce à eux. Parce qu'ils étaient en train de dire, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Et surtout toi qui n'étais pas en état de réaliser ce que tu venais de vivre. Hein, dans un quart d'heure, il fallait qu'ils partent se préparer pour un entraînement. Ils me disaient, je vais peut-être y aller. Je lui dis, mais non, je crois que tu ne te rends pas vraiment compte de ce qui vient de se passer. Ils ne réalisaient pas du tout. Et c'est le psy qui disait, vous mettez là, donc la balle aurait traversé votre thorax, elle aurait continué quand même sa course, et elle serait rentrée dans le front de votre conjointe. Voilà. Le fait d'entendre ça, moi j'avais vraiment besoin de l'entendre parce que. Ni le chasseur, ni toi étaient en train de comprendre ce qui venait de se passer au début. Mmh. En tout cas, c'est vrai. Mmh.
Donc il a été convoqué à la gendarmerie. Donc on lui demandait de venir le jour même. Il ne voulait pas.
Attends, je te coupe, mais il ne souhaitait même pas arrêter l'action de chasse qui était en cours. C'est-à-dire que pendant que le psy était déjà en train de faire les relevés, etc., il disait qu'il n'avait pas les moyens d'arrêter l'action de chasse, alors qu'il était lui-même responsable de la partie de chasse du jour. Il dit « Je n'ai pas les moyens techniques pour arrêter une action de chasse. »
Donc, quand nous, on était en train de discuter ici, quand la gendarmerie est arrivée, il continue à chasser les autres tout autour.
Et ça a été mis en cause après ou...
Non.
Non. Pas spécialement. Non, pas ça du tout. Non.
Ça tombait bien parce que le jour de l'accident, parmi le PSIC, donc le groupe d'intervention de la gendarmerie, il y avait un ancien tireur d'élite qui était présent dans la maison. Et il a dit, pour moi c'est clair, c'est un tir direct. Et il nous a expliqué, de façon très simple et pédagogique, que lorsqu'on est à 400 mètres sur un mirador, on lève la carabine de par exemple 2 degrés, et 400 mètres plus loin, il y a une différence qui nous a fait un calcul très rapide. C'était très simple pour lui que ça soit un tir direct. Je l'explique très mal. Mais à ce moment-là, le chasseur commençait déjà à dire « Mais non, vous n'y connaissez rien. Je chasse depuis 60 ans. Je vous dis que ça peut être caricoché. » Ou alors, enfin, il n'y avait aucune réponse. Et puis, il passait la porte, il partait. Alors qu'on était en train de discuter à ce moment-là avec le psy.
Il partait comme ça en
plus. Ah oui, c'était
Ce jour-là, il faut savoir qu'il y avait beaucoup, beaucoup de pluie. Le terrain, il était trempé. D'ailleurs, quand on a traversé le champ, nous... Je suis allé avec des chaussons, je crois, ce jour-là, donc on a marché dans l'eau tellement.
Ouais.
Et donc le terrain était vraiment trempé, donc avec des flaques d'eau. Et il était en train d'affirmer aussi qu'un ricochet se fait sur une flaque d'eau. Donc c'était pas anormal que ce jour-là, il y ait eu un ricochet, que la balle ait complètement déviée pour aller en direction de notre maison. Pour lui, de toute façon, vu comment il orientait, vu comment était la maison, la règle des 30 degrés, il pouvait pas y avoir d'accident, c'était impossible de tirer en direction de la maison. Si ça avait dévié en faisant un angle vers la droite, comme il le présupposait, ça aurait pas pu faire cette trajectoire dans la maison.
En ligne droite. Ouais.
La situation du poste de tir nous semble difficilement explicable. La zone de tir, dégagée à partir de ce poste, étant ouverte sur l'habitation, il est presque impossible pour un tireur se trouvant à cet endroit de respecter les consignes de sécurité de base des 30 degrés. Le projectile présente une trace de rayure longitudinale sur toute sa longueur. Il a glissé contre une surface dure, compatible avec le mur de l'encadrement de la porte, entre la cuisine et le salon. Il ne présente aucune autre déformation de l'ogive ou du cylindre, susceptible d'incriminer un ricochet, sur un obstacle antérieur à la fenêtre de l'habitation.
Quelques mois après, il faudrait qu'on retrouve les dates, hein, donc on a été convoqué une première fois au tribunal. où ça a été reporté, parce qu'en fait, justement, dès qu'il n'y avait pas assez de preuves pour juger sur le moment, donc c'est là où une expertise balistique a été demandée. Donc on est repassé une deuxième fois au tribunal. Donc là, l'expertise balistique prouvait que c'était un tir direct, donc il était fautif. Il a fait appel. On a dû attendre un an et demi, avant de passer en cour d'appel. Pareil, il déclarait du coup coupable de ça. Et là, du coup, il fait un pourvoi en cassation. Voilà, pareil, on attend encore un an et demi avant que ça passe en cassation.
Un an, ouais.
Ça fait 3 mois qu'on a eu la réponse officielle. Ça a été rejeté en cour de cassation.
D'accord, là, c'est terminé.
Ouais,
et là, c'est terminé.
Un gros dossier. Bon, ça, c'est une main courante. Ah oui, la clé. Ah oui, ça, c'était son avocat qui nous a envoyé ça. Alors, faut qu'on regarde tout ça, excusez-moi. Là, c'est la plainte. Alors, je vais regarder si on trouve tout simplement ici.
Regarde, on a vu tout le premier tribunal, tout le premier rendu.
Justement,
tous les motifs qui
datent de... Oui, exact, exact.
Les différents chefs d'accusation pour lesquels il a été jugé au tribunal. Donc, les chefs d'accusation, c'était mise en danger d'autrui. Risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence. Donc fait commis le 20 janvier 2018 à Saint-Jean-sur-Loire. Le deuxième chef d'accusation, c'était acquisition d'armes de catégorie C sans déclaration. Fait commis le 13 août 2004. Détention d'armes de catégorie C non déclarée. Donc fait commis le 20 janvier 2018. Et non-respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relative à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs. Donc fait commis le 20 janvier 2018 à Saint-Jean-sur-Loire.
On a bien compris que le groupe de chasse avait pris parti, clairement. Il y a peut-être un qui a fait preuve d'un petit peu de sensibilité quand il a vu, bah, surtout moi, dans quel état j'étais quand je les voyais juste à côté de la maison. Il comprenait qu'il essayait d'apaiser les choses, mais les autres, ils nous regardaient un petit peu comme des bêtes de foire, des jeunes qui en faisaient beaucoup trop, voilà. Et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, vraiment. Ils nous regardent de travers, et puis voilà, surtout qu'ils pensaient pas qu'on allait aller jusqu'au bout, peut-être. Mais ça nous semblait complètement logique que l'on soit reconnu déjà en tant que victime, et surtout, surtout avant tout, qu'il soit jugé coupable. Et c'est pas tant un esprit de vengeance, mais c'est surtout quand on voit tous les accidents qu'il y a aujourd'hui, on se dit, mais il faut absolument que les chasseurs soient reconnus coupables pour que les lois changent. On peut pas faire autrement, en fait. On peut pas passer ça sous silence et faire comme si c'était rien passé, reboucher les trous, et puis on n'en parle plus. Il y a régulièrement des enfants de présents lors des actions de chasse. Et le lendemain matin, donc, il y avait un monsieur avec un fusil dans la main et qui expliquait à sa façon ce qui s'était passé à une jeune fille. Et moi, j'étais dans ma cuisine, complètement... J'en revenais pas qu'il soit là, qu'il se montre bien devant notre maison, alors qu'on était encore en état de choc, avec une jeune fille qui avait, je m'en souviens en plus, un petit peu le sourire aux lèvres. Alors, j'en veux pas du tout, évidemment, mais j'aurais été curieuse de savoir ce qu'il était en train de lui raconter, quelle était sa version de l'histoire. Et voilà.
Avec des grands gestes en montrant le mirador de tel côté, la maison de l'autre côté, il faisait des grands gestes avec la main, enfin, alors qu'on était là et qu'on les voyait à travers la fenêtre. Quoi.
C'est pas très
décent, il y avait un
quoi.
Manque de respect en plus de faire ça devant nous, de venir montrer comme si c'était l'attraction touristique de la journée. Quoi. Donc,
et tout ça pour aller chasser juste après. Hein. C'était pas juste pour se dire bon, on arrête de chasser pendant une semaine, on va peut-être se concerter pour voir comment on pourrait revoir notre plan de chasse. Du tout, c'était pour aller chasser le jour même. De nouveau, le gros gibier. Hein.
Et pour ça, ils n'ont aucune compassion.
Non,
même quand
rien.
On les croise, on les a croisés après, on les croise encore. Il n'y a aucune compassion par rapport à ça. Même lui, je l'avais vu, moi, 2-3 semaines après. Il me dit, et alors, remis de vos émotions, je reste regardé les yeux grands ouverts, quoi. Et madame, parce que la sensibilité féminine, forcément, hein, elle s'emporte un petit peu, quoi. Hein. Hallucinant d'oser me dire ça quelques temps après, quoi. Comme si, oh, allez, c'était rien ce qui vous est arrivé, quand même, quoi. Je sais même pas si c'est
qu'il
et en plus, aucune excuse.
Rien.
À aucun moment.
Il a fallu que la juge, pendant le jugement d'appel, je crois, lui fasse remarquer que il semblait pas avoir vraiment d'émotion par rapport à ça. Et du coup, j'ai pris la parole en expliquant que ce monsieur ne s'était jamais excusé, même pas le jour même de l'accident. Il aurait pu dire, oui, je me rends compte, c'est terrible, excusez-moi. Mais même pas un mot d'excuse. C'est ça qui est terrible, en fait, et qui me fait peur. Je me dis, mais ces gens-là se croient tout-puissants, ils ont des armes de guerre entre les mains, et quand un accident arrive, ils se sentent pas vraiment concernés, quoi. C'est pas grave, c'est comme ça, ça arrive. Un midi, on rentre du boulot et on aperçoit, on arrive devant notre portail qui était fermé et qu'on peut facilement enjamber, il est vrai. Et là, on aperçoit quelqu'un sous notre fenêtre de cuisine, là où il y avait eu l'impact. Donc là, c'était quelques semaines après l'accident. Et donc on sort de la voiture et on lui demande ce qu'il fait dans notre jardin. Donc il revient très tranquillement avec un petit calepin dans la main. Et donc il nous explique qu'il est co-président de la société de chasse avec le monsieur qui a tiré sur la maison. Et qu'il était là pour constater ce qui s'était passé, pour regarder l'impact de balle.
Quand on lui demande effectivement, mais qu'est-ce que vous faites là, quoi ? C'était vraiment pour se dire, mais c'est pour que ça se passe bien entre nous, quoi. C'est juste pour prendre des mesures, pour que vous inquiétez pas, plutôt qu'il y ait une histoire conflictuelle entre la société de chasse et puis nous. Oui. C'était, vous inquiétez pas, je suis là vraiment, mais c'est dans votre propre intérêt, quoi. Hein. Donc on lui dit, il y a une procédure judiciaire qui est en cours, quoi. Donc vous n'êtes pas assermenté justement pour faire des mesures et tout.
Et surtout, donc, il aurait pu modifier l'impact, c'est ça. Donc on avait peur parce qu'il n'y avait pas eu encore l'expert en balistique qui était passé. Et il aurait pu, avec son petit stylo ou n'importe quoi, modifier l'impact pour aller dans le sens de leur argument du ricochet. Enfin, on pouvait tous imaginer, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient dans notre jardin. Et vu que nous, on n'était pas là toute la journée avec notre travail, 8h, on revenait à 17h30, mais en fait, on s'est dit, mais ça se trouve, tous les jours, ils s'invitent dans notre jardin à regarder ce qui s'est passé, à modifier l'impact, tout est possible. Un soir, on part en voiture pour sortir, un samedi soir, et on voit au bout de notre chemin des gendarmes. Il faisait nuit. Et puis, donc, ils nous demandent de nous arrêter. Et je baisse ma fenêtre, et là, ils tenaient en fait une grosse carabine dans les mains. Ils avaient trouvé une carabine sur la route. Et c'est une dame, en conduisant, qui avait appelé la gendarmerie, parce qu'elle avait trouvé cette arme au milieu de la route. Et donc, ils supposaient que, vu que le jour même, on leur a dit « Aujourd'hui, il y a eu une action de chasse, juste au bout de notre chemin », que certainement, ils avaient posé leur carabine sur une des voitures, sur le toit de la voiture, et en partant, la carabine était
sur la route, comme ça.
Sur la route, et on trouve une arme comme ça, en plein milieu de la route.
N'importe qui, un enfant passe par là et tout, il y avait une carabine posée au sol, chargée ou pas, on ne sait pas, les gendarmes ne l'ont pas dit.
Ouais. On n'a jamais su la suite de l'histoire, non. Mais voilà.
Il fait pas chaud, on a des problèmes de chaudière.
Ah oui ?
Vous voyez, c'est quand même une vieille maison même, ouais. Dans laquelle on est. Un peu vétuste, justement.
Mais vous êtes bien ?
Non.
Non, plus maintenant, clairement.
Non, ouais. Maintenant. Ouais,
bon, je crois qu'avant, on voyait vraiment ce côté, comme on disait, on est seul en pleine nature, c'était ça qui nous plaisait, quoi. On avait accepté cette maison, même si on savait qu'elle n'était pas très très saine. Voilà. On s'y sentait bien et on était bien. Que cet événement, ça a été un tournant où on a vu justement tous les côtés négatifs de la zone.
On veut partir. Sauf que la procédure judiciaire a duré 3 ans et demi. Et en fait, on ne souhaitait pas faire les travaux avant que la procédure soit terminée. On n'avait qu'une hantise, c'est qu'ils demandent une contre-expertise balistique, parce que le chasseur, sa ligne de défense était de dire que l'expertise balistique avait été mal faite. Et qu'il assurait que c'était bien ricoché, voilà. Donc on avait peur qu'il y ait de nouveau une expertise de demander et qu'on ne soit plus là, déjà, pour justifier de tout ça, et que ça soit classé sans suite. Donc voilà pourquoi on est resté aussi longtemps. Là, maintenant, ça fait 3 mois qu'on a eu le rendu de justice définitif.
Et comment ça va maintenant ?
À chaque fois que je me balade en pleine nature et que j'entends qu'il y a une action de chasse, je suis pas rassuré, clairement. Et j'ai pas envie d'y rester. D'ailleurs, maintenant, quand ils chassent ici, à aucun moment, on sort même pas dans le jardin. Et quand on est en extérieur en train de se balader en forêt, alors que c'est des chemins qui sont communaux, ou en tout cas partagés pour le public, quoi, on part vite, clairement.
Et puis, ben, pendant qu'il y a une action de chasse autour de la maison, j'évite de passer dans le couloir, hein, juste pour vous dire. Je me mets dans des zones, je reste sur le canapé, qui n'est pas exposé au couloir par lequel la balle est rentrée. Et je me dis, bon, elle pourra pas rentrer non plus sur la droite, parce que je sais qu'il n'y a pas de mirador par la droite. Voilà, l'état d'esprit, quoi. Donc moi, ça me rend à moitié folle. Donc c'est pour ça que c'est une urgence qu'on parte d'ici.
Donc là, vous allez faire les travaux et après vous partez.
Enfin, ouais. Surtout qu'on a un projet de vie après, en plus, complètement différent de vivre autrement, on va dire. Avec plus de sobriété, mais en tout cas, oui, pour l'instant, l'urgence, c'est de finir ses travaux. Je ne passerai pas un autre hiver dans la maison, c'est clair. C'est impossible pour mon état mental. Clairement, impossible.
Le chasseur, âgé de 80 ans au moment des faits, a été reconnu coupable. Pour les faits de détention d'armes non déclarées et de mise en danger de la vie d'autrui, il est condamné à 2000 euros d'amende, ainsi qu'au retrait de son permis de chasser, avec interdiction temporaire de solliciter la délivrance d'un nouveau permis durant 2 ans. Son arme lui est confisquée et cette sanction est inscrite au FINIADA, le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Pour les faits de non-respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique, il est condamné au paiement d'une amende de 750 euros. En réparation du préjudice moral, il est condamné à verser 2000 euros à Élodie et 2000 euros à Tanguy, ainsi que 789 euros en réparation du préjudice matériel. Entre le 20 janvier 2018 et le 14 septembre 2021, date de la fin du parcours judiciaire, il s'est passé 3 ans et 8 mois, durant lesquels Élodie et Tanguy ont vécu avec les stigmates du parcours de cette balle à l'intérieur de leur maison, et avec un carton couvrant la vitre de la cuisine perforée par la balle du chasseur. Et quelques mois plus tard, le jour de ma venue, seule la vitre avait été changée. Tout le reste était encore visible, palpable physiquement, l'empreinte effroyable de la négligence, du risque mortel d'avoir juste été là, chez soi, ce samedi matin, 4 ans plus tôt. Merci à Élodie et Tanguy pour leur témoignage. Merci à Élise d'avoir posé sa voix. Merci au collectif Un jour un chasseur. Merci à Léa, à Mila et à Sarah. Balle réelle, c'est aussi un documentaire photographique dont vous pouvez retrouver les images sur mon site internet rudyburban.fr.